Colonel Ulrich Frédéric Lomé-Zanza, bonjour. Quel est l'intérêt pour le gouvernement d'avoir un projet de parc ici à Chinko?
Ce projet est purement salutaire pour d'abord non seulement pour la sécurité au niveau de la République centrafricaine, à l'est de la République centrafricaine, et également de faire ce qu'on appelle la restauration de la biodiversité. Dans la zone de Chinko, nous disposons d'une potentialité assez énorme et unique même en son genre. Et donc l'intérêt de la protection de la nature est quelque chose que le gouvernement fait pour lui un cheval de bataille pour essayer de préserver un peu la nature. Et c'est parce que c'est un intérêt. Aujourd'hui, la protection de la faune constitue un maillon important d'interdépendance de la vie entre l'homme et l'environnement. Donc cette dépendance est absolue. Nous ne pouvons pas vivre sans les animaux et les animaux ne peuvent pas vivre sans nous. Donc nous avons besoin des animaux, les animaux ont besoin de nous. Et s'il y a une forte pression anthropique qui est liée au cas de braconnage, la transhumance sur cette ressource, ça risque bien fort de jouer également sur la sécurité alimentaire non seulement pour l'homme, et également un danger contre l'équilibre écologique dans le milieu naturel.
Comment le gouvernement a l'œil sur le parc de Chinko?
Pour le moment, il faut savoir que le gouvernement s'inscrit dans un cadre de partenariat public-privé avec l'ONG APN Chinko, qui se trouve en plein est de la République centrafricaine. D'ici peu, pour le moment, il y a un nouvel accord qui est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, qui attend juste la validation de bureau pour que il y ait un conseil d'administration qui va être mis en place de manière concertée entre le gouvernement centrafricain et cette organisation pour la préservation de cette zone qui est aussi noble pour nous.
Oui, le gouvernement fait encore face à des groupes armés, surtout ici dans la zone est. On pourrait dire que la priorité dans ce contexte-là, ce n'est pas la préservation de la nature. Mais c'est quoi l'intérêt aujourd'hui?
Non, ça a toujours son sens d'être. Tant bien même en faisant déjà, il faut faire le lien qui existe. Préserver la nature, il fait également un pont directement avec la sécurité de l'endroit. Donc aujourd'hui, si nous arrivons à bien faire la préservation de cette zone, on arrive également à sécuriser cette zone de manière à ce qu'il n'y ait plus des intrus qui puissent infiltrer et causer un peu de trouble dans l'ordre public.
On a également vu qu'une partie de résolution des conflits était aussi l'organisation des transhumances.
Effectivement, mais au moins la méthodologie utilisée en ce moment, de la non-violence par le développement de la communication entre les communautés et également nos personnels, Peul et Mbororo qu'on a recruté, et on a développé un mécanisme de communication qui est plus parfait en ce moment. On l'a testé il y a 2-3 ans. Au départ, il y avait beaucoup plus de difficultés. On avait plus de combats entre ces transhumants et l'équipe de la lutte contre le braconnage, mais aujourd'hui, c'est une parfaite compréhension. Si vous avez vu un peu sur le slash qui a été présenté par mon collègue Thierry, en ce moment, la pression anthropique est en train de s'écarter même de l'ensemble de la zone qui est mise en défense pour la conservation. Donc ça sous-entend qu'au moins la communication reste le maître mot pour une conservation durable.
En dehors de la transhumance, il y a également le braconnage qui reste un défi pour le parc de Chinko.
Évidemment, nous avions des stratégies d'approche. Vous avez vu qu'au départ, au lancement de ce projet, il y avait moins de communication tout autour. Mais actuellement, il y a un dispositif qui est mis en place en recrutant les points focaux dans les différentes communes sous-préfectures telles que de Rafai, Bakouma, Bangassou, et la mise en place d'un apport dans le cadre de ce projet Ecofaxis avec l'appui budgétaire sur le développement communautaire pour faire auprès de ces communautés développer des activités génératrices de revenus de manière à ce qu'il n'y ait plus de pression sur la zone, mais une bonne entente est en train de s'asseoir en ce moment. Et également, l'autre aspect qui est plus intéressant, c'est dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du territoire où l'idée derrière ça, c'est de faire des communautés au moins une base de développement endogène. Au départ, on pensait le développement au niveau macro. Aujourd'hui, la bonne réflexion serait sur table de penser le développement au niveau micro. Donc, c'est-à-dire commencer à réfléchir au niveau développement dans un village pour aller vers la ville que de penser le développement de la ville au village.
On sait que les braconniers qui viennent sont très armés, ils sont très violents. Est-ce que les rangers sont formés à lutter contre ça?
Pour ne pas me vanter, mais c'est véritablement des hommes, des véritables guerriers. Si on vous a dit qu'on vous le témoigne quand même, que depuis qu'on a commencé à lutter contre le braconnage jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de perte d'hommes de notre côté. Donc ça prouve que nous ne laissons pas un seul petit mot ou un petit temps pour la formation. Chaque rangeur qui passe 3 mois sur le terrain, repart au village pour le repos, 1 mois il revient, obligatoirement doit passer un test d'aptitude au niveau sanitaire pour savoir est-ce qu'il a failli ou pas. S'il a failli, il doit être reconverti sur un autre métier. Mais s'il garde le top, OK, la formation est toujours là. Et à chaque semestre, il y a un renforcement de capacité qui est là. Donc, c'est des hommes qui sont vraiment bien outillés pour faire ce travail. Et je suis fier de mes hommes. Et je suis vraiment content qu'ils sont capables de protéger au-delà même de cette zone-là.
En quelques années, on a vu le résultat du travail des Rangers. Ils se sont imposés et ont protégé ce parc. Mais aujourd'hui, on réfléchit à diminuer le nombre des Rangers.
Oui, pas diminué, mais c'est juste par rapport à quelques incompréhensions qui étaient là. C'est pour essayer de voir un peu aussi plus clair. Parce que dans certains cas, il y avait eu des incompréhensions qui s'étaient fait glisser. Et nous voulons toujours aller dans le sens de garder les rangeurs, d'augmenter le nombre de rangeurs, mais ça va être progressif. La stratégie mise en place aujourd'hui pour communiquer, on a pensé que ça donnait un résultat plus probant. Mais à la langue, on doit aussi préparer pour augmenter le nombre de rangeurs. On ne dit pas pour dire, oh non, aujourd'hui, on doit... Non, c'est pas ça. On est en train d'aller dans un sens positif, de manière à ce qu'il y ait équilibre entre le ratio homme de rongeurs et la superficie qui va être protégée.
Il y a la population locale qui consomme la viande de chasse. C'est l'une des principales denrées alimentaires centrafricaines. Alors, comment faire l'équilibre pour que la population consomme toujours la viande de chasse et que les animaux soient toujours protégés?
Oui, bon, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la viande de chasse, nous ne nous interdisons pas aux communautés de manger la viande de chasse. Ça, c'est dans toute culture. Mais nous voulons que cette chasse-là soit bien organisée. Aujourd'hui, si vous aviez lu un peu dans la présentation que dans les années 70, la zone de Chenko représentait au moins la capitale des pachydermes. Et en très peu de temps, nous avons plus de 70 000 têtes qui étaient là. En 5-10 ans, on a perdu tout ça. Ces ressources n'existent même plus en 10 ans. Et si nous ne faisons pas attention, les quelques reliques qui sont là, et si on ne les protège pas pour que nos progénitures puissent en bénéficier demain, on risquera bien fort d'en perdre. L'idée, c'est d'abord de protéger de manière à ce qu'il y ait une multiplication de ces animaux, de manière qu'il y ait un seuil. Quand il y a un seuil, on peut maintenant autoriser à ces communautés qui sont tout autour de faire des prélèvements. Mais dans la zone centrale qui est mise en défense, ça constitue comme un réservoir sur lequel, quand les animaux vont se multiplier, ils peuvent aller dans les zones où les communautés, même dans les zones où les communautés peuvent chasser, mais il faut éduquer la population de manière à ce que la chasse ne soit pas comme la chasse qu'on est en train de faire quand on arrive dans une zone, on extermine tout. Mais on fait ce qu'on appelle des prélèvements pour s'y être, qu'on a la sécurité alimentaire dans le cadre de la consommation de la viande de brousse.
Colonel Ulrich Frédéric Lombé-Zanza, je vous remercie.
Et je vous remercie.